Moi, je pense qu'il y en a pas mal à qui ça parle, le site du zéro, maintenant ça s'appelle Open Classroom. Et il y en a pas mal qui ont commencé avec ça, à lire un petit peu de d'HTML, CSS, quoi. Donc je faisais ça un petit peu en parallèle. Je me renseignais pas mal sur tout ce qui était startup américaine, je voyais un peu toutes les success stories qui existaient. Et je me dis, bon ben, moi c'est un truc comme ça que je veux, quoi. Alors il se trouve que les études, ça nous apprend pas mal le fondamentaux, c'est surtout ce qui était le code. Par contre, pour faire des sites web, bon, on n'apprenait pas du JavaScript à l'école, quoi. Donc moi j'apprenais ça le soir. Et là, donc, eux, ils m'avaient proposé un CDI, mais bon, moi, j'étais pas chaud parce que j'avais un peu tous mes trucs en tête qui gravitaient, là. C'était un peu prétentieux, le coup que j'ai fait après, mais j'ai dit, bon, non, moi, en fait, je suis sûr que je peux y arriver, quoi. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai pris un break, hein, je suis parti en vacances, j'ai fait un road trip, je suis allé en Thaïlande.
Bienvenue sur le podcast Développeur Libre, dans lequel j'accueille chaque semaine une personne inspirante qui est devenue libre grâce au code. Alors bien sûr, on a chacun notre propre définition de la liberté, et c'est pour ça que dans ce podcast, je reçois aussi bien des entrepreneurs que des digital nomades qui parcourent le monde tout en travaillant, ou des salariés qui se sont construits petit à petit une vie sur mesure pour profiter pleinement et accomplir leurs objectifs en tout genre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain, le CTO de Indie, une plateforme qui permet de gérer automatiquement la comptabilité pour les indépendants. Alors, Romain a toujours été intéressé par l'entrepreneuriat et l'informatique. Il a appris notamment à coder un peu dans son coin grâce au site du Zéro, et pendant son école d'ingénieur, il a essayé de monter quelques petites startups pour générer ses premiers revenus et éventuellement acquérir sa liberté. Et justement, dans cet épisode, on va revenir sur son parcours, ses études, mais aussi comment il a provoqué la chance pour rencontrer ses cofondateurs de Indie, qui a aujourd'hui plusieurs centaines d'employés. D'ailleurs, j'aimerais remercier Indie, qui est le sponsor de cet épisode et qui m'aide à faire vivre le podcast. Donc, bien sûr, on va reparler de cette plateforme de comptabilité très intéressante pour les freelances à travers la discussion avec Romain. Mais sachez que vous pouvez déjà tester gratuitement leur plateforme pendant 2 mois grâce au code DEVLIBRE que je vous ai mis dans la description avec le lien qui vous amènera directement sur leur site. Sur ce, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Romain. Salut Romain, merci d'avoir accepté l'invitation pour un nouvel épisode de ce podcast. Bah écoute, ce que je fais d'habitude avec tous mes invités, c'est que je leur propose directement de se présenter et d'expliquer comment ils pourraient se définir aujourd'hui.
Eh bien, salut Quentin, et merci de m'avoir invité pour le podcast. Alors, pour la définition, alors aujourd'hui, moi ce que je dirais, c'est que je suis un master of none. C'est un peu l'impression que j'ai aujourd'hui après avoir fait plusieurs années dans la startup, dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je suis un peu un expert dans rien, mais je suis touche à tout, quoi. J'ai vraiment réussi à... Moi, je t'expliquerai plus en détail quand je ferai un peu le parcours depuis les études, mais du fait de un peu la casquette de cofondateur, moi, j'ai dû faire un petit peu de dev, un petit peu de produit, j'ai dû faire du support client, donc du care, comme on dit ici. Et c'est pas mal parce que on va entrer un peu plus dans les détails après, mais ça t'ouvre pas mal de compréhension sur qu'est-ce que tu fais quand tu fais un produit, ce genre de choses. Et bon, après, tu vas voir, j'ai évolué dans plein de rôles différents. Aujourd'hui exactement, donc moi, je me vois comme un développeur. Donc ça, c'est vraiment mon métier, ce que je suis. Et aujourd'hui, même si j'ai un rôle, par exemple, on met l'étiquette VPT, donc pour Vice President of Technology, parce qu'on aime bien les startups avoir des petits noms comme ça. En fait, au fond, je suis un développeur, quoi, et je fais du code, de l'architecture, et j'essaie de faire le meilleur produit possible, quoi. Ouais, donc tu vois, la petite casquette un peu, bon, VPT, tout ça, et ça, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis en binôme avec le VP Engineering, donc lui qui va s'occuper un peu de la partie management, et moi, je m'occupe de toute la partie technologique architecture. Voilà, ça, c'est vraiment ma définition d'aujourd'hui, quoi.
Ok, top. Et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes études? Alors, je crois que tu as fait une école d'ingénieur. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes études? Et après, on reviendra sur ce terme Master of None, parce que je pense que c'est hyper intéressant, surtout pour quelqu'un qui veut se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et qui se rend compte assez vite que ses compétences sont... faible entre guillemets, ou plutôt qui se rend compte justement de toutes les compétences dont il a besoin pour lancer un projet et pour faire vivre un projet. Donc je pense que c'est hyper intéressant de revenir dessus, mais est-ce que dans un premier temps tu peux revenir un petit peu sur ton parcours scolaire?
Carrément. Et en plus, bah, ça va. Enfin, il y a des choses qui vont un peu s'expliquer via le parcours en plus. Donc moi, parcours scolaire assez classique. Donc, bon, je sais que ça a changé maintenant, ça me donne un petit coup de vieux, mais c'était en bac S, quoi, parce que je savais à peu près déjà ce que je voulais faire, que je voulais me diriger vers tout ce qui était un peu sciences dures, et j'étais intéressé par tout ce qui était start-up technologique. Je crois que c'est au lycée où j'ai commencé à coder avec le site du zéro. Donc ça devient un petit peu flou dans mes souvenirs maintenant, mais moi je pense qu'il y en a pas mal à qui ça parle, le site du zéro. Maintenant ça s'appelle Open Classroom. Et il y en a pas mal qui ont commencé avec ça, à lire un petit peu de C, d'HTML, CSS, quoi. Donc je faisais ça un petit peu en parallèle le soir, parce que je mets bien, c'est des trucs qu'on pouvait faire tout seul, sans ressources, coder des petits trucs, voir des choses qui fonctionnent. C'est un peu la puissance du code. On peut pas faire une centrale nucléaire chez soi, mais on peut coder des petits trucs, quoi. Donc voilà. Après, je suis allé en prépa. Donc prépa, le côté le plus intéressant, je trouve, c'est bon, la rigueur, la façon dont ça t'apprend à apprendre, quoi. Bon, après, c'est assez dur, mais je suis quand même content de l'avoir fait. Sortie prépa, donc école d'ingénieur. En effet, je suis allé à Grenoble INP, donc FELMA puis l'ENSIMAG. Donc l'ENSIMAG, c'est une école d'ingénieur en informatique. Parce que là, bon, là, mais je commençais à être vraiment sûr de ce que je voulais faire, quoi. Je me renseignais pas mal sur tout ce qui était start-up américaine. Je voyais un peu toutes les success stories qui existaient. Et je me dis, bon, ben, moi, c'est un truc comme ça que je veux, quoi. Et l'informatique, moi, je voyais ça déjà comme un des meilleures voies pour aller vers cet objectif. Et en plus, bah, il se trouve que j'adorais ça parce que bah, c'était un peu comme un jeu. Je m'amusais avec ça, quoi. Et je me dis, bon, bah, moi, ma cible, quoi, c'est CTO, quoi. C'est cofondateur d'une startup via la partie technologique. Pendant ce temps-là, donc, pendant les études, j'ai déjà essayé de sortir un site. Alors, il se trouve que les études, ça nous apprend pas mal le fondamentaux, c'est surtout ce qui était le code. Par contre, pour faire des sites web, bon, on n'apprenait pas du JavaScript à l'école, quoi. Donc, moi, j'apprenais ça le soir. Et pour apprendre, ben, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir un objectif, quoi. Donc, c'est bien joli de lire des bouquins ou lire des MOOC, mais il fallait qu'à côté, j'ai un petit truc où je puisse appliquer, quoi. Et donc, j'ai essayé de sortir un petit site. Alors, je ne me rappelle même plus du nom, mais c'était un équivalent à Tricount. L'idée, c'était quoi? De faire un peu les comptes entre colocataires, parce que moi, j'étais en coloc ou autre pote, ben, voilà, tout simplement, quoi. Et puis, sortir le site web ou l'application. Et voilà, le passer à mes potes et après voir ce que ça donne, quoi. Alors, il se trouve que ça a été un peu un raté quand même. Alors, j'ai réussi à faire le site, mais alors pour le distribuer, c'est là que je me suis rendu compte que bâtir, ça allait. Par contre, après distribuer, même à mes potes, hein, même avec entre guillemets, tu vois, le love money, bah ça n'a pas fonctionné, quoi. Genre, ça n'a pas pris du tout. Bon, bah du coup, j'ai un peu démotivé, j'ai laissé ce projet de côté, quoi. Donc j'ai terminé mes études, donc là j'ai eu mon bac plus 5, quoi. Après les études, donc j'avais fait mon stage, et là donc eux ils m'avaient proposé un CDI, mais bon moi j'étais pas chaud parce que j'avais un peu tous mes trucs en tête qui gravitaient là, et c'était un peu prétentieux le coup que j'ai fait après, mais j'ai dit bon non, moi en fait je suis sûr que je peux y arriver, quoi. Et donc j'ai refusé, je me dis bah je vais me concentrer maintenant, je vais faire que ça parce que j'ai du temps. Et je vais monter le site que j'avais envie, qui s'appelait Dream Coacher. Alors, je fais un petit aparté sur ce site que j'ai essayé de lancer juste après mes études. Dream Coacher, c'était un petit site pour aider les gens à réaliser leurs rêves. Parce que ce que j'avais noté, c'est qu'en fait, on est plein de rêves. Et avec le temps, tu laisses passer un peu les années et tout, tu te fais un peu prendre dans le flux de la vie. Et il y a pas mal de rêves que tu accomplis pas, quoi. Et l'idée, c'était d'avoir une sorte de boîte à outils pour un peu rappeler les gens ce qu'ils s'étaient mis. Donc, c'est une sorte de mélange de toolbox avec agenda et avec un réseau social, parce qu'en fait pour après te motiver, pour trouver la motivation, l'idée c'était de trouver des gens qui avaient le même rêve que toi, de faire des petits groupes et que les gens ils se motivent, quoi. Ou dire ah tiens moi si j'avais envie de monter l'Everest, bah, il se trouve que peut-être que dans mon cercle social le premier, mes potes, bah, eux ils étaient pas du tout sur ce rêve-là, et du coup bah ça m'amenait pas dans un cercle vertueux pour y arriver, quoi. Et voilà, ce qui peut être tout à fait acceptable, hein, tes potes ils ont pas forcément les mêmes rêves que toi. Mais via ce petit site-là, bah, tu trouvais des gens aussi motivés que toi. Et puis tu dis, ah bah tiens, moi c'est bon, j'ai acheté mes crampons, moi j'ai pris mon billet, enfin je ne sais quoi. Et hop, tu coches des cases et ça se trouve, il y a un mec qui a fait une checklist il a fait l'effort de le faire, ou il y a un mec qui a déjà fait le rêve avant toi, toi c'est en public, tu peux le voir, alors entre guillemets, tu copie-colles la checklist et hop, ça te motive et ainsi de suite, ainsi de suite. Quoi.
Ok.
Bon, c'était le petit pitch, quoi. Et alors après, le côté business, tu vois, c'était facile, c'est de dire, bah attends, moi j'ai les rêves des gens, à partir de là, c'est super simple, je peux vendre de la publicité, quoi. Mmh. Alors, j'ai passé quand même 6 mois dessus. Alors, je me suis rendu compte que déjà, j'étais pas si fort hors code, parce que quand on commence à faire un gros produit comme ça, si on n'a pas un peu tous les réflexes d'architecture, en fait, t'es ton propre ennemi, et 6 mois plus tard, le code que t'as fait, s'il n'est pas bien architecturé, tu commences à plus le comprendre. Ouais. Et tout. Donc ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis pas très bon techniquement, finalement. Et pareil, en fait, moi, j'étais à fond là-dedans, et du coup, j'étais avec des œillères, et par contre, la partie aller tester auprès des clients, faire un MVP, faire le plus petit produit, le vendre, tout ça, moi, j'avais pas non plus tous ces concepts. Mmh. Et du coup, j'étais en train d'essayer de réaliser la grosse Bertha d'un coup, et bon, en fait, je me suis un peu grillé, parce que j'ai voulu tout faire, tout seul. Trop compliqué, quoi. Donc là, ce okay. que j'ai retenu, c'est bah, finalement, t'es pas si bon, et tout seul, c'est super dur, il y a plein de compétences que t'as pas, quoi.
Ok, et je pense que ça peut être hyper intéressant de s'attarder un peu sur ces deux expériences, donc le premier site que t'as essayé de monter, le clone de Tricount, on va dire, et, ouais. Et ce deuxième site où là, c'était peut-être un petit peu plus sérieux que le premier. Donc le premier site, tu nous as dit, voilà, j'ai réussi à faire quelque chose techniquement et je me suis rendu compte que très vite, le distribuer, bah, c'était hyper compliqué. Et t'as eu un petit peu le problème avec le deuxième site. Qu'est-ce que tu as mis en place, que ce soit pour le premier ou le deuxième essai, qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer de promouvoir ce site? Alors, on pourrait appeler ça un peu du marketing, même si je ne sais pas si à cette époque-là, tu avais conscience de ce qu'était le marketing parce que tu étais un peu focus sur la technique. Mais voilà, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as essayé des choses qui n'ont pas marché? Ou est-ce qu'au contraire, tu étais tellement dans le flou que... Bah, tu savais même pas quoi essayer, tu vois. Et qu'est-ce que ça t'a appris, ces deux expériences-là?
Du coup, il y avait un peu de tout. Il y avait certainement du flou, des notions que j'avais pas, mais il y avait aussi un petit peu de prétention, dans le sens où, bon, en fait, je pense que je minimisais certains aspects, comme tu dis, du marketing. Et je me disais, non, en fait, le produit, il peut se vendre tout seul, quoi. Mmh. Ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais un petit coup de pouce, quand même, ça fait pas de mal. Dans le premier cas, moi, le premier cas, c'était un petit projet perso, hein, c'était vraiment pas un truc sérieux. Donc, je m'étais juste me basé en disant, bah, de toute façon, je vais réussir à bien pas à le vendre, mais à le faire utiliser par mon cercle social proche, quoi.
Ouais.
Et partant de là, on verra, quoi. C'est-à-dire qu'après, bon, on va voir si c'est utilisé, pas utilisé, on va voir ce qui frotte pas. Je vais l'améliorer, et après, de bouche à oreille, pure et simple, ça va se répandre. Et si après il y a des clients, bah après ça dépend des clients, des utilisateurs. Après c'est un problème de riche. Tu réfléchis un peu comment le monétiser. C'est un peu ce que j'avais vu. Je me disais, bah de toute façon les startups américaines, elles avaient fait ça. Elles ont pris des maximum d'utilisateurs qu'elles pouvaient et après elles ont réfléchi, quoi. Bon, de toute façon il se trouve que ça a pas fonctionné. En fait, puis moi je me mets à la place de mes potes à ce moment-là. Je comprends tout à fait. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils nous feront avec son truc là? Ils ouais, avaient d'autres trucs en tête pour les études. C'était faire la fête. Il y avait d'autres trucs, il fallait aller au BDE, il fallait faire le why, je sais pas quoi. Alors bon, vous pouvez télécharger l'application, c'était bien mignon, mais en fait, on n'avait pas trop ces problèmes finalement. De toute façon, on n'avait pas de sous, alors pour pouvoir se payer des trucs à plusieurs et puis tout ça partager, on n'avait pas encore trop ouais. ces problèmes. C'est plus un truc qui arrive après, quoi. Donc voilà, mais bon, après, c'était un petit projet, pas grand chose. Le deuxième, moi, j'avais fait les choses de manière un petit peu plus sérieuse quand même. J'étais allé, donc j'avais mon statut d'étudiant entrepreneur. Il y avait eu un truc comme ça, donc j'étais à faire les démarches. J'avais rencontré du monde, j'avais rencontré un peu des personnes dans le même mindset que moi, mais un peu tous quand même tous le même profil, un peu tous développeurs, quoi.
Mmh. Ouais.
Et donc il y a un petit risque de bulle, de caisse de résonance, quoi, des gens qui réfléchissent de la même manière. Et là, alors forcément, moi, j'étais hyper focus sur le produit avec des œillères, quoi. Et là, franchement, avec le recul, j'aurais pu ne serait-ce que faire des maquettes et aller voir si ça intéresse des gens, quoi. Tu sais, j'ai même ouais, pas validé le marché, quoi.
En fait, le truc, c'est que effectivement, tu nous dis que c'est de l'arrogance un petit peu, mais est-ce que tu penses que c'est de l'arrogance ou plutôt de l'ignorance et de la naïveté? Parce que quand tu découvres ce monde-là, il y a tellement de choses à savoir et peut-être que bah, toi, avec ta naïveté et ton jeune âge, entre guillemets, bah, tu dis, voilà, j'ai l'impression que ça marche comme ça, parce que quand tu lis des bouquins ou quand tu regardes des success stories de startups américaines, t'as l'impression que ça marche comme ça. Donc, tu vois, est-ce que c'est pas justement de la naïveté et tout simplement parce que t'avais pas assez de connaissances et de culture dans ce milieu-là? Et après, ouais, peut-être que en rencontrant des gens, là, tu t'es rendu compte que, bah oui, le plus important, c'est pas au final le produit, mais c'est de tester l'idée. Éventuellement, tu nous disais là de pourquoi pas faire une maquette et de valider le produit et la solution avant de s'embêter à la développer pendant plusieurs mois, quoi.
Oui, alors forcément, il y avait la naïveté. Je pense qu'il y avait un petit côté aussi de vouloir un petit peu forcer les choses. J'avais envie de faire ce projet. Je me dis, ah tiens, ça, il me porte un peu. Enfin, j'ai eu l'idée, mais aussi le concept. Bah, c'est un truc qui me parle et tout, donc j'ai vraiment envie de le développer, j'ai envie qu'il existe, quoi. Et au-delà de dire, bah, je vais gagner ma vie avec et je vais faire de l'argent. Et spoiler, il existe. Hein. j'ai trouvé des trucs. À l'époque, j'avais rien trouvé, mais j'ai trouvé des trucs maintenant qui existent. Et donc, finalement, tu vois, j'étais pas le seul à avoir l'idée quand même. Après, donc, il y avait de la naïveté. En rencontrant d'autres personnes, j'ai compris plein de choses. Et en tout cas, définitivement, c'est une leçon de ce truc-là. C'est, je me suis dit, bon, bah là, je vais plus faire un truc tout seul, quoi. Prochaine fois, je vais m'associer, je vais trouver des cofondateurs qui viennent compléter un peu toutes ces choses que j'ai pas. Et c'est sans doute la meilleure chose qui est restée de cet essai, quoi.
Ok. Et pourquoi spécialement t'associer avec quelqu'un et non pas justement, donc parce que le problème à l'heure actuelle, enfin à ce moment-là, c'est qu'il te manquait des compétences ou des connaissances. Et quand il te manque des compétences, bon bah moi personnellement je vois deux solutions, c'est soit je vais les acquérir moi-même, soit je m'associe avec quelqu'un qui les a déjà. Pourquoi le choix d'une solution par rapport à l'autre ?
Alors, là, très simple, j'étais un peu pressé quand même, parce que du coup, pour ça, ce que je n'ai pas dit, c'est que bah, j'étais rentré chez mes parents pour pouvoir développer ça, parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de salaire, je pouvais vivre nulle part, quoi. Donc, j'étais rentré chez papa et maman. Et au bout de quelques mois, quand même, tu sais, après tes études, j'avais quoi ? J'avais 22, 23 ans. Bon, ben, j'avais un peu envie de bouger quand même. Réapprendre tout ça, ça allait prendre beaucoup de temps. J'étais pas sûr de vouloir y investir. C'était un peu risqué de investir ce temps-là. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai pris un break. Hein. Je suis parti en vacances 3 mois. j'ai fait un road trip. Je suis allé en Thaïlande et j'ai bougé là-bas, quoi.
Ok.
Histoire d'avoir une bonne séparation. Et après, ce que je me suis dit, déjà, il faut que tu bouges de chez papa et maman, quoi. Il faut que tu ailles voir des gens et tout ça. Du coup, il faut que tu gagnes un peu d'argent parce que pas le choix. Et là, ce que je me suis dit, c'est je vais aller à Paris, quoi. Parce que Paris, c'est l'œil du cyclone, c'est un peu là où ça se passe et je suis sûr de rencontrer les bonnes personnes. Bon, du coup, Paris, toujours pas d'argent. Je dis, il me faut un boulot. Tant qu'à faire, j'ai envie d'apprendre, enfin, j'ai envie de parfaire le métier, quoi. J'ai envie de au moins savoir un peu déjà comment ça se passe à l'intérieur du startup. Donc j'avais déjà sélectionné, je dis, je veux travailler dans une startup.
Ouais.
Je veux voir comment ça se passe de l'intérieur. Et surtout, le métier de dev, en fait, il me manque aussi des années d'expérience, quoi. Donc, tout simplement, faire dev dans une startup. Et ça, coup de bol, c'est très recherché, quoi. Donc, j'ai pas cherché longtemps. J'ai trouvé un boulot. Donc, c'était chauffeur privé, qui était renommé Captain, qui était renommé Frida, je crois. Et je suis arrivé, on n'était pas nombreux, on était une vingtaine, si je me souviens bien, et je crois que dans l'équipe technique, on devait être 5 ou 6. Et ça a fait tout à fait ce que je voulais, quoi. C'est-à-dire que j'ai pu apprendre le métier, j'avais un bon mentor technique, un bon manager, le collègue qui était très fort aussi, donc j'ai appris plein de choses. J'ai vu l'hypercroissance aussi, puisque du coup, la boîte, elle a grandi. Donc je suis resté quelque chose comme 2 ans.
Ouais.
Et quand je suis parti, ils étaient 120.
D'accord.
Et je crois qu'ils étaient 25 à l'équipe technique. Donc j'ai vu qu'est-ce que ça faisait de voir débarquer des gens, de voir les équipes grossir, de voir une équipe qui est devenue plusieurs squads, etc. Donc toujours très intéressant. Puis moi, j'avais un œil sur, sur un peu tout le monde, tu vois, toutes les interactions qu'il y avait entre le CTO, les lead devs, entre les devs entre eux. Tu vois, ce qu'ils se disaient, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas.
Tu prenais des notes.
Tu prenais des notes
pour ta boîte, quoi.
C'est ça, je dis comment ça fonctionne et tout. Et voilà, quoi. Et bon, de toute façon, moi, je savais déjà ce que je voulais faire derrière, quoi. Et quand j'ai senti que je dis, bon, bah là, j'ai l'impression d'avoir appris ce que je voulais apprendre, j'apprends plus rien, quoi.
Ouais.
Et puis, je dis, bon, bah ça, il est temps, quoi. Et il est temps d'aller chercher ailleurs. Moi, en parallèle, je faisais tous les meet-up. Pas tous les meet-up. Je faisais plein de meet-up. Je vais dire tous les meet-up de Paris, mais il y en a énormément. Je faisais plein de meet-up à Paris. Et donc, moi, j'ai plus les noms, mais il y avait des meet-up très tech. Genre, c'était pour aller apprendre tel techno, tel framework. Donc, il y avait Node.js, il y avait Meteor.js. Il y avait un meet-up d'entrepreneurs, on va dire, avec une sorte de vision technique. Mais j'allais aussi dans les meet-up un peu entrepreneurs avec la vision business. Et là, franchement, c'était super cool. Parce que tu rencontrais énormément de monde.
Ces événements-là, c'était d'apprendre du technique, enfin d'apprendre des compétences, techniques ou pas d'ailleurs, ou justement de rencontrer du monde.
C'était des pizzas gratuites. Non, je rigole. c'était les deux, hein, quand même. J'allais parce qu'en fait, j'aimais bien écouter des trucs, apprendre des choses, mais je vais pas mentir, c'était aussi une sorte de veille de dire. Ouais, si je rencontre des mecs cool, let's go, quoi. Spoiler, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc j'ai réussi un peu sur les deux objectifs, quoi. Donc, je faisais meet-up, j'apprenais des choses hyper intéressantes et je rencontrais des mondes. Et j'ai rencontré plein de monde qui voulait lancer des boîtes. Parce que du coup, inversement, il y a plein de business, enfin de mecs business qui cherchent des développeurs et qui vont à ces meet-up aussi.
Ouais.
J'en ai rencontré, et puis il y en a que je sentais pas trop, tu vois, je disais il a une bonne idée, mais je sais pas, je me vois pas bosser avec lui, quoi.
Ouais.
Et jusqu'à ce que je rencontre Com et Pablo, donc c'est mes cofondateurs, ils étaient déjà ensemble, quoi, ils avaient déjà leur idée, et du coup ils me pitchent le truc, et Com est très fort en pitch. Écoute, il me convient bien. Et en plus, au-delà du pitch, moi, ce que j'écoutais, c'est, tu vois, j'analysais un peu la personne.
Ouais.
OK, comment ils sont, c'est quoi à peu près leurs valeurs, est-ce qu'ils sont sympas, est-ce que j'ai envie de bosser avec, est-ce qu'ils m'ont l'air brillants. Moi, ce que j'avais, tu vois, j'ai envie de bosser avec des personnes qui me motivent, quoi. Et j'avais ressenti beaucoup d'énergie, quoi. Et du coup, j'ai eu confiance. Et quand ils m'ont proposé, j'étais chaud, quoi. Et donc là, j'ai fait le jump. Donc, démissionné de Captain pour aller vers Georges. Ça s'appelait Georges Tech à l'époque.
Okay.
Georges, le robot comptable. Et là, c'est trop marrant parce que du coup, je sais pas comment décrire. C'est un peu comme un peu cliché, mais c'est un peu comme ce qu'on dit dans les séries ou les films où t'es à trois. On était en sous-location d'une startup. On avait juste notre petite pièce là où on avait une table et quatre chaises.
Ouais, c'est et la série Silicon Valley, quoi.
Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça, c'est marrant. Bon, du coup, en France, à Paris, quoi. Donc, avec les dimensions qui vont avec. On avait le soleil qu'on avait dans la pièce, il était qu'en reflet du bâtiment blanc qu'on avait en face, quoi. On donnait sur la cour. Et on avait froid l'hiver, on avait trop chaud l'été. Enfin, mais c'était marrant, quoi. Du coup, on était hyper focus tout cela à développer le produit. Donc, Pablo et moi, on développait le produit, donc là c'est ce que je disais, vraiment la casquette développeur pure, quoi. Et comme il disait, tout le reste, quoi. C'est-à-dire qu'il appelait des leads, il faisait le produit, il faisait l'analyse, il faisait le business, etc. Ça nous arrivait quand même, nous, aux développeurs, de temps en temps, de répondre en support client, quoi, sur le chat. Ce qui est, et je le souligne, hyper bien, parce que quand t'es développeur, t'as vite fait de perdre un peu pied sur le produit, sur ce que tu fais, faire de la tech. Là, répondre au client, tu comprends le besoin du mec, quoi.
Ça permet de voir où sont les problèmes.
Ouais, voilà, t'as le thermomètre du produit dans la bouche du client, quoi. Et ouais. Tu dis, ok, en fait, c'est ça son problème à lui. Tu vois, c'est hyper clair, quoi. Tu dis, attends, je vais faire l'interface qui va bien, je vais compléter la doc. je vais écrire le produit pour que ce soit plus clair, je vais faire l'algo qui va bien, enfin je vais faire cette partie-là avant cette partie-là parce que bon, en fait moi je pensais que c'était important mais c'est pas moi qui suis de la situation dans leur situation et en fait eux ce qu'ils ont besoin c'est ça. Donc en fait ils te font la roadmap quoi.
Ouais. Donc, et justement, est-ce que avant avec les deux cofondateurs, enfin voilà, à quel stade était le projet quand t'as commencé à t'associer à eux? Est-ce que justement il y avait déjà toute cette réflexion de savoir qui est le persona, quel est son problème et déjà un embryon de solution à ce problème, ou est-ce que c'était encore très vague?
Non. Alors du coup, le temps qu'on se rencontre et surtout le temps que j'ai perdu le mot là, quand tu fais une démission, tu passes un certain temps dans la boîte d'avant. Bon, tu sais, les 3 mois là.
Ouais.
C'était 3 mois.
Rupture conventionnelle.
C'est ce truc-là. Et donc, ces 3 mois ont été très très longs. Parce que du coup, j'avais l'impression qu'ils pouvaient avancer sans moi.
Ouais.
Donc, quand je suis arrivé dans la boîte, il y avait déjà un produit quand même. Il y avait même je crois qu'il y avait les premiers clients. Donc Stripe était branché, on avait une interface, on avait un back-end et la base de données, le modèle, bon, c'était... Et justement, moi, je venais pour apporter un petit peu plus d'architecture, de test. Moi, j'en parlais, il n'y avait pas de test, je disais, ah, faut qu'on ajoute des tests. Et voilà, donc aider sur vraiment la partie tech et la rendre plus scalable et mettre toute l'architecture, quoi. Bon, on était tous les deux, si je rentre un peu dans le détail du dev, Pablo et moi, on est tous les deux full stack, quoi. Et lui, il a une meilleure appétence, on va dire, un peu UX, UI. Et moi, j'étais un petit peu plus dans l'archi, aller faire les index, dire on va faire le modèle comme ça, ce genre de choses, quoi.
OK.
Surveiller les slow queries. Je dis, ah, la base, attention, faut pas faire trop de queries comme ça et tout. Ça faisait rire, mais non, mais elle est là pour ça à la base, pourquoi pas, enfin, bref, c'était plein de petites discussions comme ça, et à ce moment-là où on est à 3, tu vois, c'est, bah du coup, à la pause déjeuner, bah tu parles du produit, on avait un tableau blanc à côté, on était en train de faire le modèle à ce moment-là, et c'est là que tu te rends compte que ça va super vite, parce qu'en fait, la communication, tout le monde est au même niveau de communication tout le temps, on est tous passionnés, donc ça va hyper vite, on avance sur pile les sujets qui vont bien. Et ça, je pense que c'est un avantage que les petites boîtes garderont toujours face aux plus grandes. Parce qu'en fait, le sujet, par exemple, celui de la communication, bah, c'est beaucoup plus dur quand tu es 150 à garder une communication égale chez tout le monde, quoi. En tout cas, c'est des process, ça se travaille, ça ne se fait pas en claquant des doigts, quoi. Et la mutation, bah, elle n'est pas forcément évidente, quoi. Parce que quand tu es habitué à un fonctionnement qui fonctionne bien, et qu'en fait, bah, par la force des choses, de la nature de ce qu'on est d'être humain, quoi. Bah, en fait, ça, les choses doivent changer. Bah, c'est pas naturel. Tu te dis, ah, mais on a toujours fonctionné comme ça. Mais en fait, là, non, c'est plus le bon modèle. Maintenant, il faut changer de modèle et tout, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et justement, par rapport à cet avantage de la communication, parce que vous étiez que 3, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu penses que c'est un coup de chance ou parce que voilà, t'as trouvé 2 associés qui avaient la même manière de communiquer que toi? Donc, est-ce que il y avait vraiment un matching entre vous trois, ou est-ce que tu penses que sans spécialement avoir fait d'effort, enfin, et déjà, est-ce que du coup, t'as fait cet effort de bien comprendre qui ils étaient avant, de bien comprendre leur manière de communiquer, de s'exprimer, et est-ce que au bout d'un moment, tu t'es dit, ah bah, ok, là, je sens que ça match, parce que certes, on a la même vision, mais on a aussi la même façon de communiquer, et du coup, comme je sais que la communication c'est important. Voilà, je donne entre guillemets mon feu vert.
Bon, je dirais pas que j'ai été jusqu'à analyser ou tu vois, de faire ça de manière très formelle, parce qu'en fait, la façon dont on s'est rencontré, c'était pas un entretien, c'était on s'est vu au bar, quoi, on a pris une bière, donc ça pouvait être vu comme un entretien, mais c'était fait de manière beaucoup plus informelle. Et moi, c'était une intuition, tu vois, je le sens bien, quoi. Tu vois, après avoir parlé, puis tu sais, tu vois si quand tu parles. En vrai, ça va très vite, hein, de voir si t'arrives à parler avec la personne ou si tu sens que tu te dis, bon, bah, finalement, on part pas sur le même sujet, on n'a pas les mêmes délires ou on n'a pas les mêmes rêves et tout, quoi. Donc, j'allais pas dire, moi, je suis pas un mec qui analyse le même fond. J'étais juste en mode, bon, je le sens bien. Et au fond aussi, tu vois, c'est une période de la vie où je me dis, de toute façon, qu'est-ce que je risque, quoi. Enfin, Je suis jeune, célibataire, dev, tu peux retrouver du boulot en claquant des doigts. Si tu veux lancer un truc, c'est maintenant. De toute façon, j'arrêtais pas d'essayer depuis que je suis sorti d'études. J'y allais, c'est reparti, mais cette fois, c'est la bonne.
C'est la bonne.
On est trois, quoi. Donc, ils vont compléter mes défauts.
Ok. Ok, top. Et du coup, donc voilà, comment, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que, alors, déjà, c'était en quelle année ça?
Alors, que je dise pas de bêtises, c'était en 2016.
Ok.
Ouais, d'accord. 2016.
Et après, voilà, comment s'est effectuée cette croissance? Enfin, en fait, si je te dis ça, c'est parce que je connais plus ou moins la suite. Donc, je sais que ce projet-là a quand même bien abouti. Donc voilà, enfin, explique-nous un peu comment c'est décollé et peut-être qu'est-ce que tu as retenu de ce décollage, peut-être une leçon que tu as apprise, que tu aurais bien aimé, par exemple, connaître quand tu as lancé ton projet, ton premier ou plutôt ton deuxième projet en sortant d'école.
Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que trois, on a complété le produit. On a réussi à faire une première levée de fonds. Et ça, forcément, ça te donne la possibilité de pouvoir recruter les personnes. Et c'est là qu'il y a entre guillemets, un vrai décollage. Parce que, alors du coup, première levée, donc là, il y a vraiment de l'argent sur le compte. Tu te dis, tiens, on peut commencer à recruter des personnes. On arrive à recruter des personnes, ce qui est quand même pas facile, surtout à Paris, quoi. Et en plus, tu ne recrutes pas n'importe qui, parce que les premières personnes de la boîte, tu sais que c'est tes futurs piliers de la boîte. Mais on a eu de la chance, on a trouvé après beaucoup d'entretiens, on a trouvé les bonnes personnes. Ça, c'est hyper important. Hein. Donc, je pense que trouver les bonnes personnes, c'est déjà un peu une leçon de la deuxième tentative. Mais même là, au sein d'une boîte pour la croissance, c'est hyper important. Donc, ça mérite qu'on y passe du temps. Et donc, la boîte grandit. Donc, plus de clients, plus de recrutement. Donc, on recrute des développeurs, on recrute au support client. Toujours à Paris, et là, à un moment, on décide aussi de déménager à Lyon. Donc ça, je pense qu'il y a plusieurs critères, il y a plusieurs aussi en fonction des personnes de la boîte, tout le monde n'a pas la même vision. Moi, je vais parler pour moi, quoi, pas forcément pour la boîte. Moi, j'avais ce côté un peu de, à Paris, entre guillemets, j'ai eu ce que je voulais. Et maintenant, je commence à avoir un peu plus les défauts de la ville et j'ai moins les avantages, quoi. Donc, le métro, l'immobilier où tu peux vivre dans pas des super conditions, quoi. Et moi, je suis aussi quelqu'un qui est un peu amoureux de la montagne, du ski, du parapente, toutes ces choses. Et c'était très compliqué de faire tout ça à Paris. Et là, maintenant qu'on avait la boîte, le fondateur, l'idée, c'était lancé et tout, il y a eu l'idée de déménager. Donc, il y avait plusieurs villes... potentiel, une fois qu'on avait réussi à convaincre les gens qu'on allait déménager, Lyon et Bordeaux. Bon, finalement, ça a décidé pour Lyon parce qu'on s'est dit qu'on pourrait plus facilement recruter des gens là-bas. Moi, ça me rapprochait des montagnes, donc ça m'arrangeait bien quand même. et là, on n'était pas nombreux. On était six, je crois. Mais n'empêche qu'avec tous les plus un des personnes et tout, c'est quand même un déménagement qui est compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait si tôt. Et là, c'est important quand même parce que on déménage pas une boîte quand on est 20, 30 où tu perds énormément de personnes et à ce moment-là, c'est trop critique. Donc, le fait de le faire très tôt, c'était hyper important parce qu'après, on était dire, maintenant, on est fixé et là, on va pouvoir recruter du monde. Et là, on savait qu'on allait pouvoir recruter massivement à Lyon. Mais tu vois, là, par exemple, on peut plus déménager, quoi. On est 160 à Lyon. Tu déménages pas la boîte. Quoique, j'en ai entendu des boîtes qui ont fait ça, mais bon, je sais pas si ça a très bien passé, quoi. Et, du coup, voilà, donc déménagement, moi, je pars en éclaireur, parce qu'on n'a pas tous déménagé en même temps. Donc, moi, j'ai été avec mon petit bâton de pèlerin, et puis je suis allé à Lyon, et on a ouvert les premiers bureaux. Donc, pour les bureaux, tiens, petit conseil au passage, nous, on passe par tout ce qui est prestataire, qui t'offre un peu le bureau clé en main.
Ouais.
Donc, t'arrives, t'as le Wi-Fi, t'as tout qui est installé, donc t'arrives avec ton ordi, tu ouvres ton ordi, tu te connectes au Wi-Fi, et tu taffes. Je pense que c'est hyper important. Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense que c'est important d'avoir ça parce que, tu payes un premium, mais au moins, tu peux te focus sur ce qui est important, quoi. Et ce qui est important au début, c'est de développer ton produit, t'occuper de tes clients et pas de savoir si le Wi-Fi fonctionne, de savoir s'il y a tout ce qu'il faut en immobilier, etc.
Ouais.
Donc voilà, petite astuce. puis là, on recrute, hein, la boîte grossit. Ça se fait de manière assez linéaire, quand même, je dirais. Alors après, la porte de la linéaire change à chaque levée de fonds. mais ça se fait quand même de manière linéaire. Moi, je me suis mis pas mal dans le recrutement. Donc, c'est ce que je disais là, ça rejoint un peu le Master of None. C'est que du coup, donc, j'étais un peu développeur, j'ai parlé avec clients, j'ai fait un peu de produit aussi, parce qu'à un moment, comme il n'y avait pas le temps non plus de tout faire, donc moi-même, je devais aller lire dans le BOFIP, dans le bulletin officiel donc des finances publiques, comment ça fonctionne la comptabilité. Je dis, OK, je lis la loi, je vais essayer de la coder. Et là, j'ai aussi pris la casquette de recruteur, chose que je n'avais jamais fait, quoi, ou. C'est le fameux mec qui envoie des messages sur LinkedIn et que personne ne répond. Ben voilà, je suis aussi passé par là.
Ok.
À téléphoner donc à différentes personnes et tout. Et bon, il se trouve que j'ai créé l'exercice. J'ai vraiment créé tout le process. Donc je faisais faire. Nous, on avait un process où donc je contactais la personne. Je lui expliquais ce que c'était. Si elle était motivée, je faisais faire l'exercice. Puis des briefs techniques. Au bureau ou en remote, mais là on passait un peu de temps sur le test, on parlait vraiment technique, et après dernier entretien final sur la motivation et l'humain et les valeurs, quoi. Et là, mine de rien, j'ai quand même réussi à recruter, si je compte à aujourd'hui, là, on est 32 devs, donc 32 personnes, 30 personnes donc à l'équipe technique, et je pense que c'est une de mes plus grandes victoires, quoi, parce que je suis très content de l'équipe. J'ai réussi à recruter des joueurs meilleurs que moi. Et ça, je pense que c'est hyper important. Forcément, ça prend du temps hein, de recruter. Donc, ça m'a un petit peu éloigné de la tech, de l'architecture, tout ça. Mais bon, en fait, en gros, quand t'aimes, tu comptes pas et tu fais ce qu'il faut pour la boîte, quoi.
Et, ouais, c'est ça. Et du coup, ça rejoint le Master of None où tu nous disais que, du coup, cette expérience, bah, forcément, elle t'a obligé. Sans que ce soit forcément une contrainte pour toi, mais elle t'a obligé à aller chercher des connaissances ailleurs, des compétences ailleurs, des compétences de recruteur, des compétences en compta, enfin voilà, en communication éventuellement. Enfin, c'est vraiment ce qui a fait que là où dans une grande boîte ou peut-être dans une start-up, mais où tu avais moins cette casquette de cofondateur, bah tu serais resté avec cette casquette très technique. Et tu aurais peut-être eu moins d'occasions d'apprendre des compétences annexes, alors que là, bah, t'étais au cœur du truc et t'étais obligé d'y aller, quoi. T'étais obligé d'aller chercher des nouvelles casquettes à droite à gauche si tu voulais que les choses avancent.
Bah ouais, c'est clair. Et en plus, la différence, c'est que dans une boîte, du coup, t'es limité à ton rôle. Alors, il y en a pour qui c'est parfait et ça convient tout à fait, hein. Donc, c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde de l'entrepreneur et des startups, mais moi j'avais envie de ça, quoi. Et la différence par rapport à aller chercher les compétences alors que tu n'en as pas forcément besoin tout de suite et tu te dis bon, c'est pour plus tard, franchement, c'est la motivation, quoi. C'est si tu dis bon, je vais aller faire mon petit MOOC et comme ça, je sais que dans 2 ans, peut-être ça me servira, tu vas pas mettre du cœur à l'ouvrage, de toute façon, tu vas oublier d'ici là. Alors que là, tu dis bon, il faut que je fasse ça, quoi. C'est un peu c'est humain, quoi. Donc, t'as un objectif à très court terme, tu veux l'atteindre. Donc, tu vas aller lire un petit blog par-ci par-là, mais tu vas pas non plus faire un MOOC qui dure 3 semaines et tu te lances, quoi. Et après, t'apprends sur le tas. Et je pense que ça a plus de valeur. En tout cas, ça a fonctionné pour moi, quoi. Donc, je m'autoriserai pas à parler pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai appris plus vite à ce niveau.
Ouais, ok, trop bien, super. Alors après, est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de ce que fait cette boîte, parce que tu nous as brièvement dit que tu avais dû te plonger de manière assez sévère dans la comptabilité. Je pense que ça peut être important de bien comprendre ce que fait la boîte qui a été renommée hein, depuis, et tu pourras nous en parler un peu plus, mais bien comprendre ce que fait la boîte, et je pense que ça pourra aussi éclairer les auditeurs sur les compétences qui sont nécessaires, parce que bon, certes, c'est une start-up, mais une boîte, elle a une forme et un fond. C'est la forme start-up, et après, il y a le fond qui... Donc, la forme start-up va te demander des certaines compétences, et après, peut-être que le fond va t'en demander d'autres ou des compétences spécifiques. Enfin, voilà. Parle-nous de ce que fait un peu la boîte et en quoi ça a joué sur les compétences qui t'ont été requises.
Yes. Alors, j'ai quand même parlé ouais, de la base qu'on fait pour que tout le monde puisse comprendre. Et après, enfin, du produit. Et après, j'ai aussi un peu parlé de la boîte, à savoir comment on fonctionne entre nous et c'est quoi nos valeurs. Du coup, le produit, donc, c'est une application SaaS qui va automatiser la comptabilité des indépendants. Donc, dès le début, donc, nous, on s'est attaqué au début tout ce qui était profession libérale. Et l'idée, c'est que il y avait pas mal de personnes qui faisaient ça eux-mêmes et qui perdaient énormément de temps. Donc, nous, je me rappelle des interviews clients qui disaient, bah, moi, je perds des week-ends sur ma comptabilité. Pire, il y en a qui faisaient des erreurs. Donc, ils devaient revenir sur leur compta ou ils pouvaient se prendre j'ai plus le nom exact, enfin, ils avaient des malus financiers. Donc, on s'est dit, OK, bon, bah, ça, c'est sûr que ça s'automatise. Enfin, on sent qu'il y a une grosse partie qui est automatisable. Comment ça fonctionne? Donc, en fait, la personne, elle va se connecter donc à. Alors, j'ai appelé Georges à Indy parce que ça s'appelait Georges, on était renommé Indy, mais ça se connecte à Indy et en fait, on fait une synchronisation bancaire. Donc, la personne, elle rentre ses identifiants bancaires. Donc, bon, là, ça passe par un partenaire pour tout ce qui est sécurité, qui a tous les agréments qu'il faut. Nous, on va récupérer toutes les transactions du compte pro. À partir de là, on peut faire une catégorisation automatique, donc qui est faite pour ceux qui connaissent avec tout ce qui est machine learning. Une fois que nous, on a pu catégoriser toutes les transactions, bon, il y a certaines où on peut avoir des doutes, et dans ce cas, on demande quand même à l'utilisateur de catégoriser dans la bonne catégorie, ce genre de choses. Une fois que tout est catégorisé, on va via les algos cette fois-ci, donc là, c'est pas du machine learning, c'est pas de l'IA, parce qu'en fait, les règles, elles sont très claires, elles sont écrites dans la loi. On a fait les algos qui vont bien et on sort l'alias fiscal. Donc, ça
Ok.
peut être en fonction du régime fiscal de la personne, ça peut être la déclaration 2035, déclaration 2065, parce que bon, il y a plus. Maintenant, on a des personnes qui sont. Donc, ça a parlé à ceux qui sont indépendants, mais il y a tout ce qui est BNC, entreprise individuelle, tous ceux qui sont l'IS, SASU, SAS. Ils ont ben, plein d'obligations, ça peut être 2035, 2065, la déclaration de TVA, le bilan, le compte de résultat, FEC, Grand Livre, Balance. Bon, je pense que ça parle à pas mal de personnes.
Ouais, c'est
On a même
ça concerne bah, auto-entrepreneurs et au-dessus, quoi. Enfin, tous ceux qui sont indépendants et qui ont un statut juridique.
Exactement. Donc ça, c'est des obligations. Je sais que ça, pour certains, ça peut donner des boutons, quoi, la compta.
Ouais,
Et ben, l'idée, c'est qu'en fait, c'est pas leur métier, ils ont sans doute choisi un autre métier. Et faire ça, bah, ça leur consomme du temps, c'est complexe, ça peut faire des erreurs. Et bah, nous, on s'est dit, bon, bah, on le fait une bonne fois pour toutes, eux, ils se connectent, et tout est automatique, quoi. Concrètement, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est un peu l'inverse de Facebook. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que vous passez le moins de temps sur le site. Ce qui est une bonne chose pour nos serveurs, parce que du coup, ils restent petits, on n'a pas besoin de les scaler énormément. Et donc là, concrètement, voilà, tu peux passer quelques minutes par semaine dans le bus au retour du boulot à catégoriser les 10% de transactions qui n'ont pas été catégorisées automatiquement par le machine learning. Et voilà, et tu fais juste ça sur toute l'année. Et à la fin de l'année, à la fameuse clôture, on a préparé une petite checklist où on va aller demander au client bah, qu'est-ce qu'il reste à faire et. Il sélectionne, on va dire, il y a des petits formulaires, il sélectionne juste ces petits trucs, il coche ses petits choix, on fait les petits, tout ce qui est indemnité kilométrique, ce genre de choses. On a besoin de savoir juste les choix d'utilisateur. Il fait sa petite checklist. Donc là, il y en a quand même pour quelques heures. Mais bon, quelques heures dans l'année, comparé à tous les week-ends qui passaient avant, c'est pas mal de gain de temps.
C'est un bon deal.
Ouais, c'était un bon deal. Et après, bah, c'est parti, hein, ça envoie l'alias fiscale automatiquement à l'AGA ou en EDI directement bah aux impôts. Et terminé, quoi, on passe à l'année suivante.
Ok.
Et après ça, on a aussi un chat, donc le fameux support client où j'ai participé. Bah c'est la moindre question durant l'année sur bah, comment on utilise le produit, comment on fait ci, comment on fait ça. Bah, on a toute une équipe qui est prête à répondre. Et on a une super satisfaction. Je crois même que. Bah, on peut encore aller voir les notes Google et Facebook, et c'est une des choses dont on est le plus fier, quoi.
Ouais, bah, c'est vrai que c'est un truc que moi j'aime beaucoup chez Indie, parce que je prends mon exemple concret en fait. Donc moi, comme la plupart, enfin comme beaucoup des auditeurs le savent déjà, je pense, actuellement je suis auto-entrepreneur. Et le truc, c'est que bon, certes j'ai un business qui est quand même assez particulier, dans le sens où c'est pas le freelance développeur qui va avoir quelques clients dans le mois et qui va faire quelques factures, même si des fois ça peut commencer à faire beaucoup, quelques factures dans le mois. Moi, il y a des revenus qui viennent à la fois des interventions dans des écoles ou dans des organismes de formation. Il y a les revenus qui viennent de YouTube. Il y a les revenus qui viennent des partenariats YouTube. Donc quand je dis YouTube, c'est publicité YouTube et partenariat YouTube. Et il y a aussi bien sûr les formations que je vends sur mon site. Et en fait, le fait qu'il y ait plusieurs sources de revenus, et je pense que je dis j'ai un business particulier, mais je pense qu'on est pas mal aussi à avoir différentes sources de revenus. Et le problème en fait, c'est qu'il y a toujours des petites subtilités. Tu sais pas trop dans quelle case il faut mettre ça. Peut-être que quand tu utilises PayPal ou Stripe, enfin en gros tout ce que je veux dire par là, c'est que il y a tellement de petites questions, de petites subtilités, que moi personnellement j'ai beaucoup de mal à trouver des réponses, même si les guides qu'on trouve pour les auto-entrepreneurs ou pour, enfin voilà, pour plein de choses, pour la comptabilité, pour les statuts juridiques, voilà, il y a plein de guides hyper complets, mais des fois il y a des subtilités qui sont propres à notre business. Et c'est vrai que le chat est quand même hyper pratique, parce que ça fait bah, entre guillemets un mini coach personnel pendant l'instant d'une question, tu vois.
Un mini coach, ouais, et surtout beaucoup de réassurance. Parce qu'en fait, la comptabilité, mine de rien, ça fait peur. Et quand bien même, au final, quand on creuse, on se rend compte que pour ces comptabilités-là, c'est pas si complexe. En fait, c'est quelque chose où les gens, ils sont assez stressés. Et quand bien même le produit, il fait tout à 100%, en fait, il y a plein de petits trucs où mes clients, ils ont besoin de poser une question pour se sentir
Ouais, bah
rassurés sur telle catégorie, sur, les cases, tu vois, les cases de toutes les cases fiscales, elles se remplissent automatiquement. La TVA, elle est remplie automatiquement. Ils disent, ah, mais cette case, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai mis ça là-dedans. Pourquoi il y a ça qui s'est copié? Donc, on voit que les gens, ils sont intéressés parce que, ils surveillent la chose. Et mais c'est surtout au début. Et après, une fois qu'ils ont confiance dans l'outil, ils laissent rouler, quoi. Là, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de tickets, dans les premiers mois du client. Et après, ça se calme énormément. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont appris à faire confiance, ils laissent le truc tourner. Puis après, ça devient presque un outil plus de surveillance. Tu vois, il y a un dashboard où tu vois un peu toutes tes recettes, tes dépenses. Tu as plein de graphiques qui t'aident un peu à piloter ton activité. Et ça devient un peu ce compagnon qui t'aide à piloter ton activité, quoi. Et en plus, toute la compta est automatisée, quoi. Donc au début,
Ouais.
tu viens pour la compta, puis après, tu suis un peu la machine, quoi.
Ok. Et est-ce qu'il y a eu des pivots assez notables depuis 2016? Donc là, on va dire la création de la boîte. Est-ce que, alors, je vais pas dire des pivots, parce que bah voilà, on a bien compris que le but principal de Indie a toujours été plus ou moins le même. Mais est-ce qu'il y a eu, ouais, des moments où vous vous êtes rendu compte que telle ou telle fonctionnalité qu'on mettait beaucoup en avant, bah en fait, elle n'intéressait pas grand monde, et du coup vous l'aviez mis de côté. Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu des périodes où ça vous a aidé justement d'échanger avec le client pour savoir quel était vraiment son problème, et où est-ce qu'il attendait qu'on l'aide sur ce problème-là?
Le fait d'être en constante communication avec le client fait qu'on n'a pas eu besoin de faire des pivots
Ouais.
importants, en tout cas. Parce qu'on est toujours, on était constamment avec lui sur le chat, donc on arrivait à faire évoluer le produit vraiment petit pas par petit pas dans la direction qu'il voulait. Sur un peu les directions stratégiques, ce qui s'est passé, c'est en fait, on a surtout ouvert à de nouveaux clients. Donc nous, on était au début avec tout ce qui était profession BNC et pas de TVA. Puis en fait, on a beaucoup de clients qui nous demandaient la TVA, donc on a rajouté la TVA et en fait, on a eu un produit un peu en oignon, quoi. Enfin,
Ouais.
là où on a ajouté des couches, donc on a ajouté la couche TVA. Et après, il y a des clients qui étaient dans un autre régime avec d'autres déclarations. Alors, ils utilisaient aussi la TVA, mais ils avaient besoin d'autres déclarations. Et donc là, hop, c'est parti, on a fait le régime IS. Et donc on a dû ajouter des nouvelles déclarations. Puis ils avaient des autres besoins de pilotage, donc on a dû ajouter aussi des nouveaux graphiques pour le dashboard, ce genre de choses. En fait, le produit, il évolue comme ça, quoi. Il est en train On a commencé par la comptabilité qu'on jugeait la plus facile, la plus simple, parce que de toute façon, elle était universelle pour tous, et on a construit par-dessus, quoi. Et on construit par-dessus, et on construit par-dessus. Et là, on s'ouvre à de plus en plus de clients, on fait de plus en plus de déclarations différentes. Les celles d'avant, elles peuvent être réutilisées par ceux qui ont des déclarations plus complexes, et on vient souvent ajouter celles qui manquent. Et en fait, c'est pas un pivot, mais du coup, ce qui est important maintenant dans la stratégie, c'est de choisir les bons combats, quoi. On va dire, est-ce qu'on fait telle déclaration, est-ce qu'on fait telle petite feature. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les avis de nos clients et y a une personne qui les traite, qui va les regarder une par une, qui va les catégoriser et qui va dire, ok, bon là, ce qui est le plus demandé, c'est telle feature, ce qui nous permet d'aller les traiter. Alors, on a toujours des clients qui sont déçus parce que il y en a 4-5 qui demandent la feature X. Et bon, comme il y a 300 clients à côté qui demandent l'autre feature, on fait l'autre feature en premier. Et puis, ah, mais moi, ça fait un moment qu'il y a remis ce petit truc-là, ça m'aiderait. Et à un moment, ça remonte parce qu'en fait, comme il y a plus de clients, finalement, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et il y a un beau jour, ça se retrouve en haut de la pile et hop, c'est parti, quoi.
Ouais, carrément. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous dis là parce que, en fait, on sent qu'au final, vous n'avez jamais eu vraiment. Vous êtes jamais tombé dans ce problème de passer du temps, investir du temps et éventuellement de l'argent dans le développement d'une ou plusieurs features pour se rendre compte après que c'était du gâchis, quoi. Et je pense que c'est un truc qui est hyper important à garder en tête pour quelqu'un qui veut lancer un produit. Je pense que c'est valable dans quasiment tous les domaines, enfin en tout cas et surtout dans le monde de la tech où ton produit c'est une application ou un site, c'est vraiment de faire en sorte de récupérer un maximum d'avis utilisateurs. Alors pour vous c'était pratique. Alors je sais pas si ça a été réfléchi comme ça ou si c'est venu après et que vous vous êtes dit mais en fait c'est hyper intéressant d'ajouter ce chat parce que en plus de fournir de la valeur à nos clients, ça nous fournit de la valeur à nous aussi, parce que c'est les retours clients, c'est des échanges qui sont de l'or au final. Mais même sans ça et même si le chat et le support client, c'est peut-être une valeur moins intéressante en fonction du produit ou du service qu'on essaie de lancer, toujours garder en tête que les avis utilisateurs c'est hyper important et essayer de mettre des choses en place pour mettre en avant, en fait, enfin, comment dire, pour pousser les utilisateurs à donner leur avis et à parler justement de leur problématique avec le produit ou service, quoi.
Carrément. Et le chat, il était là très tôt, il était là au tout début du produit. Et puis, chapeau quand même à notre CIO, com et VP Product pour avoir su garder le cap. Maintenant, c'est Amélie. Et ils sont bons aux produits parce qu'ils arrivent à parfois un peu nous recadrer quand à la tech on commence un peu à partir. Ça serait bien de faire ça. Non, attendez, c'est pas ça que les clients veulent, c'est ça, quoi. Ouais. Donc, il y a une bonne symbiose, quoi. Ils arrivent à garder le cap et faire en sorte qu'on pousse dans la même direction, quoi.
Ouais, ok. Et justement, en parlant de ça, est-ce que tu peux nous parler un peu, peut-être très rapidement, des nouvelles features qui sont sur la stack en ce moment, qui vont être développées dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis après, peut-être justement nous parler de manière un peu plus globale de la vision de Indie, on va dire à moyen long terme, quelques années dans le futur.
Alors, il faudrait que je check un peu les features que j'ai le droit de dire ou pas, parce que j'ai toujours peur d'annoncer un truc et finalement on fait autre chose avant et on se dit ouais. J'ai entendu dire, c'est toi qui as dit au podcast qu'on allait faire ça. Là, il y a une feature qu'on vient de faire, c'est la paye. Et donc, ça, c'est pour les personnes qui ont besoin d'éditer des fiches de paye, donc surtout côté régime IS. Donc, c'est une feature qui a pris pas mal de temps et puis on est assez content de ce qu'on a sorti. Donc, il y avait. Donc ça, maintenant, c'est live, hein, les clients peuvent le voir. Autre chose, c'est tout ce qui est au niveau des pièces justificatives. Donc ça, tu peux prendre des photos, tu peux mettre des petits PDF sur toutes tes transactions, les assigner les transactions. Et désormais, elles ont la valeur probante. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est une histoire un peu une sorte de signature électronique qui permet de valider comme quoi la pièce jointe elle fait office de valeur probante, ce qui avant était vraiment la pièce physique, donc ta facture, ton petit bout de papier, chose que du coup les gens devaient garder dans une sorte de boîte à chaussures quelque part en cas de contrôle. Et bah désormais ça se termine aussi, vous pouvez jeter ça à la poubelle une fois que vous avez téléchargé ça sur Indie, ce qui fait toujours un petit peu d'espace en plus. Et voilà, donc ça maintenant la valeur probante a été intégrée au produit, ainsi que le multi-justificatif. Tu vois, ça c'est typiquement un truc qui nous avait été remonté de nos clients. Nous, on avait mis une pièce jointe pour une transaction. Et en fait, il se trouve qu'une transaction, tu peux la subdiviser en plein de petites, en plein de petites subdivisions en disant ça c'était telle partie, telle partie, telle partie.
D'accord.
Et en fait, ils doivent pouvoir assigner plusieurs pièces jointes, quoi. Donc voilà, il y a une autre. Bon, ça, c'est ma vision technique, j'allais dire. Il y a une refonte de tel produit, mais du coup, son produit, ça ne se voit pas. Côté dashboard, on commence à vraiment avoir un espèce de pilotage aux petits oignons avec tous les graphiques de suivi que tu peux avoir. Donc, j'invite tout le monde à aller ressortir son petit onglet pilotage. Vous allez avoir plein de graphiques pour voir où vous en êtes au niveau de votre trésor, les retraits et les dépenses. Vous pouvez avoir plein d'indicateurs. Et sur les futurs, donc là j'ai peut-être pas trop m'avancer parce qu'on en a pas mal en stock, il y en a qui nous sont pas mal demandés et j'ai pas envie de d'annoncer quelque chose et dire que ça prend un peu de retard et tout, surtout que moi je suis le premier en tant que CTO à dire non mais ça va, on va pas le sortir à telle date, il faut qu'on le polish avant, donc j'ai pas m'avancer quoi.
Ok. Voilà,
je pense à un truc, je le dis hein, mais
Mais c'est juste effectivement pour bien comprendre que voilà, l'outil, même si ça fait déjà quelques années qu'il existe, il y a encore beaucoup d'améliorations et de fonctionnalités supplémentaires qui arrivent quoi.
C'est sûr qu'on n'est pas en manque d'idées au vu de tout ce qui va monter. Et la vision, c'est vraiment de pouvoir faire 100% de la comptabilité de l'indépendant. Donc juste le compagnon pour que ce soit une charge mentale en moins. Cette partie-là qui est un petit peu stressante, je sais que c'est fait, j'ai pas besoin d'y passer mes week-ends, ce sera juste, ça va pas se tromper. On a des dizaines de milliers de clients sur lesquels les algos ils sont battle testés. Donc c'est charge mentale en moins et surtout, du coup c'est du gain de temps quoi. Donc un peu de liberté de faire un peu de disposer de ton temps de comme tu préfères, de plutôt faire tes hobbies plutôt que de passer ton temps sur la compta. Et ça, c'est la direction du produit et la direction de la boîte. Parce qu'on a quand même plein d'êtres humains derrière Indie, quoi. Et c'est de faire une entreprise heureuse et utile.
Ouais.
Les gens se sentent bien, ils aiment venir, ils aiment travailler et qu'on fasse un produit qui soit vraiment utile quoi, dans le monde.
Ouais, ça c'est vrai que c'est pas facile à garder quand tu grossis. Et un truc sur lequel je voudrais rebondir, tu nous dis effectivement que la vision d'Indie, c'est devenir le comptable entre guillemets personnel de tous les indépendants. Mais par rapport justement aux obligations qu'ont ces indépendants à avoir un comptable. Je sais moi que en tant qu'auto-entrepreneur, la comptabilité pour moi c'est un problème. Ça l'était pas dans les premiers mois parce qu'il y avait quelques factures à droite à gauche, donc c'est pas forcément gênant, mais c'est devenu très vite un problème. Et je sais aussi que pour le statut d'entreprise individuelle que j'ai déjà, parce que la micro-entreprise, c'est un type de statut, type d'entreprise individuelle particulier. Enfin bref, on va pas s'attarder sur ces détails-là, mais tout ça pour dire que il y a des statuts qui n'ont pas l'obligation, qui ont une comptabilité très simple et qui n'ont pas l'obligation d'avoir un comptable. Et sauf si je me trompe, peut-être qu'il y a des choses que je maîtrise pas, mais il me semble qu'il y a certains statuts qui ont l'obligation d'avoir un comptable. Donc voilà, est-ce que par rapport à ça, vous vous positionnez d'une certaine manière par rapport à ces obligations-là, ou est-ce qu'au contraire, j'ai raté un truc et chacun peut gérer comme il veut sa comptabilité?
Alors franchement, check, parce que pour moi, je n'étais pas obligé. Donc c'est BNC, entreprise individuelle, IR, SASU, SAS, ALIS, SARL, EURL, ALIS. Tu peux tout à fait te connecter avec Indie. T'as pas besoin de comptable. Après, c'est à toi de décider si tu préfères avoir un comptable parce qu'il peut apporter d'autres choses par ailleurs. Mais je sais que pour beaucoup, il y en a qui aiment bien, avoir un œil là-dessus. Et après, ils ne veulent pas tout faire eux-mêmes, donc ils préfèrent que tout soit automatisé. Mais
oui, c'est ça.
Une interface simple pour comprendre. Par contre, ouais. L'obligation, comme tu dis, franchement, on vérifie parce que pour moi, il n'y a pas d'obligation.
Ouais, mais c'est toujours la subtilité entre tu dois avoir un comptable parce que en fait ce qui t'est demandé c'est des documents hyper complexes à remplir et quand t'as pas fait des études de comptable tu sais pas comment remplir ça et enfin la distinction
tu dois
faire les choses propres et tu dois le faire par quelqu'un, tu vois.
Ouais, mais donc je pense à plus ça, tu dois t'as pas le choix, c'est trop trop complexe quoi. Peut-être que du coup c'était dit comme t'as une comptabilité simple, bon, en fait c'est facile, tu peux le faire toi-même.
Oui, c'est ça.
En fait, elle devient trop complexe. Ah là, il faut que tu passes à un comptable parce qu'elle devient trop complexe. Ouais, mais en fait, il se trouve que si t'as pas changé de régime, en fait, c'est les mêmes obligations derrière. Mmh. Et il se trouve que tu peux tout à fait la faire toi-même. Aider d'un logiciel ou un logiciel en ligne, quoi. Et nous, c'est ce qu'on est, quoi.
Ouais, ok, super. Eh ben écoute, en tout cas, hyper intéressant. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. En tout cas, c'est hyper intéressant de comprendre comment t'en es arrivé là, même si c'est que le début. Comment t'en es arrivé là, comment t'es entré dans le monde de la startup, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de comprendre le processus et de voir que t'es pas arrivé là par hasard. C'est-à-dire que derrière, il y a eu les meet-up et avant ça même, il y a eu l'intégration d'une start-up pour comprendre justement comment ça fonctionnait. Tu nous disais que t'étais un peu en mode inspecteur gadget avec ton calepin. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est hyper intéressant parce que ça montre aussi que même si on n'est pas dans ce domaine-là et qu'on n'a pas fait une grande école avec option entrepreneuriat, on peut toujours rentrer dans ce monde-là et créer sa propre boîte et créer un peu son mode de vie sur mesure, quoi.
Yes, et je me permets, parce que comme je crois que on parle de développeur libre, ouais. Moi, c'était un peu liberté, parce que je pense qu'on a tous une vision un peu différente de liberté. Pour certains, ça va être la liberté géographique, pour d'autres, ça peut être d'autres types de liberté. Moi, ce que j'ai cherché un peu, c'est cette liberté de choix, quoi. Où je peux choisir un peu mes technologies, je peux choisir les personnes avec qui je vais bosser, le choix un peu business, stratégique, produit. Moi, c'est dans cette définition, il y a cette partie-là qui me parle beaucoup, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que tu nous as dit tout à l'heure que vous aviez déménagé à Lyon et qu'à partir du moment où tu déménages, là, c'était un peu la deadline, on va dire, la dernière limite avant laquelle c'était plus possible de déménager. Je suppose que maintenant, ça va devenir très compliqué. Ou alors, c'est pas un déménagement, mais c'est plus une expansion de la boîte avec des antennes ailleurs. Mais voilà, malgré le fait que ta boîte s'enracine, entre guillemets, à Lyon, pour toi, t'as toujours tu te sens toujours libre, justement, parce que t'as fait le choix de créer ce quotidien-là. Parce que justement, ta définition de la liberté, c'était de pouvoir faire des choix dans ton quotidien et dans la boîte dans laquelle tu bosses, quoi.
Exactement. Ça dépend des personnes, ça dépend des valeurs. Pour certains, ça peut être d'autres types de valeurs géographiques ou de temps. Moi, je savais que de toute façon, j'allais travailler, que ça allait être la majorité de mon temps. Même si j'ai une liberté financière de dingue, je sais que je vais quand même continuer à travailler parce que j'adore travailler de la technologie. Et donc, le plus important pour moi, c'est que ce temps-là, étant donné qu'il va être la majorité de ma vie, il soit bien alloué. Et il faut cette liberté de pouvoir travailler dans les conditions que tu as envie, quoi.
Ouais, carrément. Ok. Hyper intéressant pour le mot de la fin. J'ai juste deux petites dernières questions à te poser que je pose souvent aux invités. La première, c'est est-ce que tu aurais en tête deux personnes que tu souhaiterais inviter sur le podcast ou en tout cas que tu souhaiterais entendre échanger sur ce genre de sujet qu'on a eu pendant cet épisode?
Sans doute. Alors, je vais pas dire leur nom parce que j'ai pas les engager pour eux, mais je crois que parmi mes anciens collègues et ou de mon équipe de développeurs actuels, comme ils sont très passionnés, de pouvoir les inviter au podcast, quoi.
Ok, carrément. De toute façon, tu peux voir avec eux et puis tu m'envoies un petit mail par la suite et comme ça, ce serait un plaisir d'échanger avec eux. Et du coup, la dernière question, est-ce que tu aurais une ressource? Alors quand je dis ressource, ça peut être un bouquin, un site web, une série, un film, un podcast, une application, enfin bref, peu importe. Mais voilà, une ressource qui peut-être toi t'a aidé dans ce voyage entrepreneurial, on va dire, et que t'aimerais partager avec les auditeurs.
Ouais, alors moi je suis très livre. Du coup, ça va être des livres. Il y en a pas mal qui m'ont parlé. Donc je les ai classés, j'en ai plusieurs. Alors, j'en ai des très tech, j'en ai un peu des business. Mais en tout premier, je vais dire Sapiens. Je vais dire, alors, ça peut sonner un petit peu bateau. Moi, il m'a parlé un peu pour nous reconnaître dans notre condition d'être humain. C'est un peu une vision anthropologique sur où on en est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la civilisation, comment on en est arrivé là avec le regard historique. Et ça peut faire naître énormément de réflexions sur soi-même, sur ce qu'on veut faire, et surtout sur un peu acquiescer quel est notre modèle physique et notre réalité, quoi. Et je pense que ça peut énormément indexer sur la suite et sur la vie de quelqu'un, quoi.
Ouais, ça, carrément.
C'est la première ressource.
Ok, trop bien.
Et après, des ressources un petit peu plus que tu peux appliquer un petit peu plus rapidement. je vais dire, si les gens sont intéressés par le côté vraiment entrepreneur, lisez Delivering Happiness. Donc, c'est un bouquin qui suit le parcours d'un entrepreneur et comme son nom l'indique, qui va se focaliser un peu sur délivrer du bonheur, quoi. Et je trouve que c'est très intéressant. J'ai lu plein d'autres bouquins de un peu tout ce qui est business startup et je trouve que celui-là, il sortait un petit peu du lot. Donc, si vous êtes de ce côté-là, prenez celui-là. Et une note pour les développeurs, que ce soit en salariat, en freelance, quelque chose qui peut vraiment changer votre carrière, parce que je trouve qu'il y a des développeurs qui restent, souvent qui stagnent un petit peu au niveau. Et en fait, il ne suffit de pas grand-chose pour vraiment être propulsé dans la next phase. Il y a des livres du genre Clean Code, Clean Architecture ou TDD by Example. Voilà, lisez ces bouquins et vous serez propulsé à la phase suivante de votre carrière.
Ouais, super, très bonne référence. Je connais que les dernières hein, sur le clean code et tout ce qui va avec, mais en tout cas, très très bonne référence. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose que c'est un peu, ouais, c'est un peu le dictionnaire qu'on devrait avoir dans cette bibliothèque ou la Bible, entre guillemets, mais qu'on voit là, qu'on devrait
ouais,
tous avoir.
Ouais, des valeurs sûres.
Ouais, c'est ça, c'est qu'on devrait tous avoir chez soi.
Ça devrait être dans le parcours. Maintenant, les grandes écoles, elles ne forment pas être développeurs, elles forment être ingénieurs, mais ça devrait être dans le parcours développeur. Quoi.
C'est vrai. Ok, trop bien. Bah écoute, super, plein de ressources. Alors, je m'attendais à ce que tu me dises Indie aussi, mais bon, voilà, on sait que c'est aussi.
Ah, je t'ai lancé dans mon truc. Mais alors, Indie, ça me paraît être l'évidence.
C'est l'évidence.
Tu veux gagner du temps et gagner en charge mentale. Quoi. Là, c'était des petites ressources pour vraiment. Bah, c'était mes ressources que moi j'ai utilisées.
Ouais, non, mais bien sûr. Ok, super. Bah écoute, je mettrai tous les liens de ces bouquins et, dans les notes de l'épisode. En tout cas, merci à toi, Romain. C'était hyper intéressant d'échanger avec toi. Et puis, peut-être à bientôt hein, dans un deuxième épisode pour voir comment India a grandi et peut-être toi aussi, comment tu auras évolué dans ta carrière.
Carrément, l'évolution personnelle et celle de la boîte. Bah écoute,
yes.
Merci aussi à toi, Quentin, de m'avoir invité. C'était super chouette.
Merci, à bientôt.
À bientôt, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec Romain vous a plu. Et pour rappel, hein, du coup, vous pouvez toujours profiter de 2 mois gratuits sans aucun engagement sur la plateforme Indie. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui est dans la description de l'épisode, qui vous mènera donc directement sur leur site. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Et à en parler autour de vous, ça nous aidera à faire grandir le podcast et à inviter toujours plus de profils inspirants. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt.